Ghislain Roussel, directeur général, non. Secrétaire général et directeur des affaires juridiques de la Bibliothèque et Archives nationales et notamment responsable de la direction de la programmation qui est en charge notamment des expositions et des événements publics sous la responsabilité, entre autres, de Mme Lynn Petitclerc, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ici et d'accueillir M. Louis Gilles, qui est votre conférencier, qui vous entretiendra de la dette de l'État est-elle un investissement? J'ai voulu être présent pour cet accueil de la première conférence en partenariat entre l'UQAM, y compris l'UQAM Génération et Bibliothèque et Archives nationales, dans le cadre de la planification des conférences ou du cycle de conférences entre Bibliothèque et Archives nationales et l'Université du Québec à Montréal et UQAM Génération. Et effectivement, c'est une première étape d'une entente de collaboration et de partenariat entre nos deux institutions, qui est presque finalisé et qui devrait être signé incessamment. Et cette entente permet de faciliter et d'intensifier les échanges entre les deux établissements et de permettre la réalisation d'activités de projets communs. Cette entente est ouverte aux professeurs et cadres de la bibliothèque, ainsi qu'aux cadres professeurs, professionnels, étudiants et diplômés de l'UQAM qui verront développer des projets réalisés en collaboration. Et ceci peut se matérialiser sous diverses formes, comme des activités ou la participation à des activités, la réalisation de projets de recherche, l'échange d'expertise, la diffusion d'informations relatives aux activités pertinentes à l'entente, l'accueil de participants, l'accueil de stagiaires, la création de liens Internet et tout autre projet. Et dans le cadre de cette négociation, de cette entente-là, je tiens à remercier M. Arsenault et aussi les personnes avec qui j'ai travaillé très étroitement, M. Léon-Gérald Ferland, du service de formation permanente à l'UQAM, Mme Danielle Dagenet-Pérus, du service de formation permanente, ainsi que Mme Lynn Petitclerc. Et ce qui est intéressant pour Bibliothèque et Archives nationales, cette entente-là nous permettrait d'user, je dis bien user, des services de l'audiovisuel de l'UQAM, et nous l'avons déjà utilisé jusqu'à ce jour pour des télévidéoconférences, et nous faisons nos conférences vidéo avec la Bibliothèque nationale de France à partir des studios de l'UQAM, et aussi, ce qu'on aimerait aussi faire, c'est que les conférences qui sont ici sont disponibles, captées et enregistrées, et disponibles en balado-diffusion. Et donc, c'est un partenariat dont on se réjouit énormément. Et aussi, je n'aurai pas l'indécence quand même de vous dire qui est UQAM Génération. Pourquoi UQAM Génération? C'est que dans les trois créneaux qu'on a identifiés pour la Grande Bibliothèque pour les prochaines années, il y a trois créneaux qu'on veut sur lesquels on axe et développer des activités, notamment les aînés, les affaires et les jeunes, d'où l'entente avec UQAM Génération, qui sont nos voisins d'ailleurs. Donc, pour la suite, donc je vous souhaite la bienvenue. Je réjouis beaucoup de ce partenariat-là et je laisse la parole à M. Arsenault qui vous présentera votre conférencier de la journée. Bienvenue.
Bonjour. Alors, nous avons le privilège d'avoir M. Gill aujourd'hui. M. Gill est un retraité de l'enseignement à l'UQAM, et il est économiste. Il a participé aux origines de l'Université UQAM, et nous avons vraiment un privilège de l'avoir aujourd'hui, parce que le sujet est un sujet qui est d'actualité. Alors, je lui laisse la parole.
Est-ce que c'est à vous? Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être venu et je remercie d'abord et avant tout Bibliothèque et Archives nationales du Québec et UQAM Génération de m'avoir invité à présenter cette conférence. Vous avez reçu à la porte en entrant un petit document que j'ai préparé pour vous aider à suivre la conférence d'une part et aussi pour que vous puissiez rapporter chez vous quelques notes qui vous permettront de poursuivre la réflexion après la conférence. Vous allez me dire que je suis un gaspilleur de papier et puis qu'aujourd'hui, on se sert de PowerPoint. Moi, je n'ai pas de grande affinité pour PowerPoint parce que on a ce qui est présenté à l'écran, mais quand vous partez, vous n'avez plus rien. Donc, c'est la raison pour laquelle je préfère gaspiller un peu de papier en espérant que ce ne sera pas du véritable gaspillage, mais que vous pourrez l'utiliser par après et poursuivre la réflexion. Si vous prenez ce petit document, vous avez sur la première page, la page couverture, une réplique, en quelque sorte, de la page couverture d'un livre que j'ai publié récemment, plus précisément à la mi-novembre, qui s'intitule « Rembourser la dette publique, la pire des hypothèses ». Alors, je dis d'abord que ce livre-là, je l'ai écrit pour deux raisons. D'abord, évidemment, je ne vous cacherai rien en vous disant que l'un des objectifs, c'est de défendre une position tranchée sur la question, qui ne laisse aucune ambiguïté, ou enfin, pour laquelle le titre ne laisse aucune ambiguïté. Mais le deuxième objectif est tout aussi important. Ce que j'ai voulu faire, c'est que, pour citer un ancien ministre des Finances du Québec, qui a par la suite été premier ministre, je parle de Jacques Parizeau, qui savait de quoi il parlait. Parizeau disait de la dette publique qu'elle était le problème le plus redoutable des finances publiques. Il disait même qu'il avait engagé un jour un attaché de presse qui avait accepté le poste à une seule condition, c'est qu'il n'ait pas à parler du passif net au titre des régimes de retraite. Ça, c'est une des composantes de la dette sur laquelle nous allons venir tout à l'heure. Donc, c'est une question complexe. Et comme je vous dis, j'ai voulu faire un petit texte, un petit livre, le plus simple possible, tout en tenant compte du fait que la question est complexe. Ça ne peut pas être si simple que ça quand la question est aussi complexe. Mais là, je reprends à mon compte une phrase célèbre de Jean-Jacques Rousseau, philosophe et écrivain de la période des Lumières, qui, dans un des chapitres de son célèbre livre « Du contrat social », commence le chapitre en écrivant « J'avertis le lecteur que ce chapitre doit être lu posément et que je ne sais pas l'art d'être clair pour qui ne veut pas être attentif. » Donc, c'est un peu dans cette perspective-là que j'aborde la chose en vous disant que j'ai fait personnellement un effort de vulgarisation, mais ce n'est pas suffisant. Et évidemment, il faut faire l'autre effort pour comprendre, c'est-à-dire l'effort de la part des lecteurs et lectrices. Je pense personnellement que si le débat qui a lieu présentement sur la dette est un débat extrêmement important, et ce débat ne peut être mené correctement et de manière démocratique que si on comprend de quoi on parle. Parce que sinon, on peut se laisser avoir par n'importe quel argument de n'importe quel supposé spécialiste et qui fait passer ses idées, mais sans qu'on sache exactement de quoi on parle. Alors, comment entrer en matière? Je pense que si on veut parler de la dette, il faut savoir quelles sont les différentes définitions de la dette. Et c'est un préalable, et c'est pour ça que j'ai inscrit ces petits tableaux en première page. Alors, je vous invite à jeter un coup d'œil sur ce tableau. Vous avez d'abord un premier bloc qui s'intitule « dette totale » ou « dette brute ». Alors, cette dette totale ou dette brute, elle s'élève actuellement au Québec à 122 milliards. Elle était l'an dernier de 118 milliards. C'est pour ça que vous avez peut-être entendu flotter un chiffre de 118 milliards dans des discussions. C'est que là, il y a un nouveau budget qui vient d'être présenté. Et lorsque le budget est présenté, on met les chiffres à jour et la dette est toujours la dette qui est comptabilisée à la fin de l'année financière. Puis la fin de l'année financière, c'est le 31 mars de chaque année. Alors, on n'est pas encore là, mais le budget a été présenté cette année pour des raisons politiques un peu plus tôt. Et puis, on a fait donc des estimés. Et le 122 milliards dont il est question ici, c'est ce que sera la dette dans un mois, c'est-à-dire à la fin du mois, le 31 mars 2007. Alors, ça, c'est la dette totale. Que comprend la dette totale? La dette totale, en fait, comprend deux éléments fondamentaux. D'abord, ce qu'on appelle la dette directe. Ça, c'est la partie de la dette qu'on pourrait appeler la vraie dette. C'est-à-dire que c'est la partie de la dette qui consiste en titres émis sur le marché. Le gouvernement emprunte, a besoin d'argent, donc il émet des obligations, des bons du trésor, etc. Ce sont des titres qui sont émis sur le marché, qui ont un certain montant qui est attaché à eux, avec une échéance et puis un taux d'intérêt. Régulièrement, le gouvernement paie des intérêts sur ces titres-là et à échéance, il rembourse. L'autre partie, alors premièrement, bon, voyons tout de suite que cette partie-là de la dette s'élève à 90 milliards. C'est l'essentiel, donc 32 % du PIB. J'ai oublié de dire que quand on parle de la dette, comme on parle de bon, 118 milliards, 120 milliards, ça c'est des chiffres pour faire peur au monde et ça ne veut jamais rien dire si on ne met pas ces chiffres-là en rapport avec la taille de l'économie. Si je vous disais, par exemple, que la dette des États-Unis, elle s'élève à 8 000 milliards de dollars, c'est considérable. C'est considérable. À côté de la dette de 122 milliards du Québec, c'est sans proportion. Mais il faut dire aussi que le produit intérieur brut des États-Unis est 50 fois plus élevé que le produit intérieur brut du Québec. Alors, si vous faites le rapport de l'un à l'autre et que vous considérez, par exemple, simplement la dette qui est la partie qui consiste en titres émis sur le marché, ben, le pourcentage par rapport au PIB aux États-Unis est exactement celui qui existe ici au Québec, mais évidemment avec un montant considérablement plus élevé parce que c'est une économie considérablement plus puissante et par conséquent qui crée plus de richesses. Alors, la dette de 122 milliards, elle correspond à 43 % du produit intérieur brut. Chose importante à savoir. Et la dette qui est la dette directe, ou qui consiste en titres émis sur le marché, elle représente 32 % du produit intérieur brut. On arrive à la deuxième composante de la dette. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une partie qui est une vraie dette, c'est-à-dire qui consiste vraiment en titres émis sur le marché, et il y en a une autre qui est une simple reconnaissance de dette. Le gouvernement dit « j'aurai à payer des prestations de retraite aux employés du secteur public et du secteur parapublic qui font partie des régimes de retraite, donc de ces secteurs-là ». Alors, il calcule la valeur actuelle, avec des méthodes actuarielles, il calcule la valeur actuelle de ses engagements futurs et il dit « ma dette que je reconnais devoir aux employés du secteur public et parapublic et que je devrais par conséquent leur payer en prestation de retraite quand ils seront à la retraite », ça s'élève à un montant qui est de 32 milliards de dollars, comme vous pouvez le lire en bas de la case intitulée « Engagement envers les régimes de retraite ». Donc, 11 % du PIB. Si j'étais méticuleux, j'ajouterais un autre bloc. Et ce bloc-là, c'est un bloc qu'on pourrait intituler « Actif du fonds de génération ». Parce que vous avez sûrement entendu parler que le gouvernement du Québec a créé l'an dernier, lors de son budget qui a été présenté en mars 2006, un fonds des générations dont l'objectif est censé être d'accumuler des sommes d'argent et qui vont réduire, en quelque sorte, le montant de la dette. Alors, je ne l'ai pas ajouté pour la simple et unique raison que, en ce moment, les actifs accumulés dans le fonds des générations sont minimes. C'est un demi-milliard, un peu plus de 500 millions, en quelque sorte. Donc, je n'ai pas jugé nécessaire de le mettre là pour complexifier encore davantage les choses, mais ayez en tête qu'il y a aussi un autre bloc qui est celui du fonds des générations. Quand vous viendrez à une conférence semblable dans 5 ans, par exemple, que je donnerai avec plaisir, là, à ce moment-là, il y aura un petit peu plus d'argent dans le fonds des générations et j'aurai un bloc en bonne et due forme dans lequel sera inscrit le montant accumulé des actifs du fonds des générations. Ensuite, ça prend un petit peu de temps, mais je pense qu'il est important d'avoir les choses en tête clairement. Si on soustrait de la dette totale les actifs financiers détenus par le gouvernement, on obtient, alors ses actifs financiers s'élèvent actuellement à 16 milliards de dollars. On obtient la dette nette qui est d'un montant de 106 milliards, c'est-à-dire 122 moins 16. Qu'est-ce que c'est que ces actifs financiers? Les actifs financiers du gouvernement, ce sont d'abord les placements, prêts et avances que le gouvernement accorde à ses entreprises, les entreprises du gouvernement, et à divers organismes. Par exemple, je vous donne un exemple. Hydro-Québec, chaque année, verse des dividendes au gouvernement parce que c'est une entreprise du gouvernement. Mais les dividendes que Hydro-Québec verse ne représentent que 50 % environ des revenus totaux d'Hydro-Québec qui devraient être versés en totalité au gouvernement. Hydro-Québec n'en verse que la moitié. Évidemment, ce n'est pas parce que c'est un mauvais payeur, c'est parce que le gouvernement s'entend avec Hydro-Québec et qu'en quelque sorte, en agissant de la sorte, Hydro-Québec effectue un prêt. C'est-à-dire, le gouvernement effectue un prêt à Hydro-Québec. Alors, si, par exemple, Hydro-Québec a 2 milliards de revenus et qu'il ne verse qu'un milliard, ben, c'est l'équivalent d'un prêt d'un milliard du gouvernement à Hydro-Québec. Donc, ça devient un actif que le gouvernement détient, c'est-à-dire que le gouvernement dit « Hydro-Québec me doit un milliard, donc j'ai un actif d'un milliard qui correspond au prêt effectué à Hydro-Québec ». Alors, faites la somme de tous ces prêts, placements, prêts et avances, et vous obtenez les actifs du gouvernement. Ça vous donne ensuite, en soustrayant de la dette totale, la dette nette. Et je conclue avec les deux composantes de la dette nette. C'est que cette dette nette-là, elle provient de l'endettement qui est contracté pour accroître les immobilisations, les acquisitions d'immobilisation. Qu'est-ce qu'on appelle les immobilisations? Des routes, des immeubles. Quand le gouvernement du Québec construit une route, il dépense de l'argent pour construire cette route-là, il emprunte de l'argent pour pouvoir le faire, et donc il acquiert une immobilisation qui est la route, et pour ce faire, il contracte un emprunt. Et cet emprunt-là est une des composantes de la dette. Il y a une autre composante de cette dette qui consiste dans les déficits que le gouvernement fait, qu'il faisait, parce que maintenant, il n'a plus le droit d'en faire, en vertu de la loi qui oblige le gouvernement à réaliser l'équilibre budgétaire. Et donc, l'autre partie, c'est la dette qui est attribuée au déficit cumulé. Vous remarquerez que j'ai pris la précaution d'écrire ici, non pas la dette découlant des immobilisations ou la dette découlant des déficits cumulés. J'ai écrit « attribuée aux immobilisations » et « attribuée aux déficits cumulés » parce que, comme je démontre dans mon livre et donc comme je vous en parlais tout à l'heure, ce ne sont pas les véritables montants qui correspondent aux dettes en question. Donc, appelons-les « dettes attribuées aux déficits cumulés » et « dettes attribuées aux immobilisations ». Je m'arrête sur la partie de la dette qui est attribuée au déficit cumulé. Vous voyez que ce montant-là représente 92 milliards de dollars, ou 33 % du produit intérieur brut. Si on veut, disons, si on se demande comment est-ce que les gouvernements fonctionnent quand ils parlent de leur dette, le gouvernement du Québec, quand il parle de sa dette, la dette cible dont il parle, c'est la dette totale. Une des démonstrations de ceci, c'est que, par exemple, quand le Fonds des générations a été mis sur pied, le gouvernement a dit « L'objectif du Fonds des générations, c'est de réduire de 43 % à 25 % le rapport de la dette au PIB en 20 ans. » Ça, c'est la dette cible du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Canada, lui, sa dette cible, c'est la dette attribuée au déficit cumulé. Alors, il est évident que si on compare, par exemple, la dette attribuée au déficit cumulé du gouvernement fédéral en ce moment, elle représente 35 % du produit intérieur brut. Alors, si on dit, par exemple, bon, ben la dette du Canada est moins élevée que celle du Québec, parce qu'au Québec, c'est 43 % du PIB, puis au Canada, c'est 35 %. À ce moment-là, on compare, bien évidemment, comme vous pouvez le constater, des pommes avec des oranges, parce que on vient de comparer une dette totale avec une partie de la dette totale qui est constituée de la dette relative au déficit cumulé. Si on prend, par exemple, pour le Québec, comme c'est inscrit ici, 92 milliards, la dette attribuée au déficit cumulé, c'est 32 % du PIB. Au Canada, c'est 35 %. Ah, là, voilà, on a un portrait tout à fait différent. Parce que si on compare des comparables, c'est-à-dire si on compare les mêmes choses, on constate que la dette relative au déficit cumulé au Québec, elle est inférieure à celle du Canada. Et si on fait la même chose pour la dette totale, eh bien, pour la dette totale, qui représente 43 % du PIB au Québec, bien, elle représente 45 % du PIB au Canada. Donc, sur les deux tableaux, la dette au Québec est légèrement, on s'en fargera pas dans des comparaisons, disons, de 1 ou 2 %, mais elle est légèrement inférieure au Québec à ce qu'elle est au Canada. Ce qui est complètement différent comme portrait de celui qui nous reste dans la tête quand on entend continuellement, parce qu'on entend parler de la dette, on dit que la dette du Québec, c'est 43 % du PIB, la dette du Canada, c'est 35 % du PIB, mais on parle pas de la même dette. Si on parle de la même dette, à ce moment-là, on s'aperçoit que le portrait n'est pas tout à fait le même. Alors, je voulais attirer votre attention là-dessus, parce que c'est une chose extrêmement importante dans le débat sur la dette, de savoir que si on veut comparer des choses, il faut comparer des comparables, il faut comparer les mêmes éléments. Ça se complexifie encore davantage lorsque vient le temps de comparer les dettes au niveau international. Parce que là, au niveau international, ce qu'on utilise pour faire la comparaison, c'est aucun des éléments que vous voyez ici. Ce qui est utilisé par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui regroupe les principaux pays industrialisés, dans des statistiques qui sont publiées deux fois par année, c'est ce qu'on appelle la dette brute ou nette, ils publient des chiffres pour les deux, de l'ensemble des administrations publiques. L'ensemble des administrations publiques, par exemple, prenons au Québec, l'ensemble des administrations publiques, c'est l'administration publique du Québec, provinciale en quelque sorte, l'administration publique des réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation, l'administration publique des municipalités et des organismes municipaux, et également la dette des entreprises du gouvernement. Alors, ça fait beaucoup d'argent. Mais par contre, l'OCDE ne comptabilise pas les engagements envers les régimes de retraite. Pour la simple et unique raison que, en dehors du monde anglo-saxon, où on comptabilise ces choses-là, qu'il s'agisse du Canada, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Japon, en dehors de ça, la plupart des pays d'Europe ne comptabilisent pas ces engagements-là. Et la plupart des pays d'Europe, même, n'ont pas de régime capitalisé de retraite. Ils ont des régimes dits par répartition. Donc, l'OCDE, quand elle compare les différents pays, pour comparer des comparables, elle soustrait, elle ne tient pas compte des engagements envers les régimes de retraite. Donc, d'une part, c'est beaucoup plus large parce que c'est toutes les administrations publiques, mais d'autre part, c'est plus restreint aussi parce qu'on enlève les engagements envers les régimes de retraite. Alors, tout ceci pour vous dire que, vous voyez, c'est un peu complexe, et puis qu'on y perd facilement son latin si on ne sait pas de quoi on parle. Il est très important, donc, d'avoir ça en tête, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé avec ce petit schéma. Si nous passons maintenant au vif du sujet, une fois les définitions données, une fois, disons, le cadre du débat bien campé, nous en arrivons justement au problème précis de savoir ce qu'il faut faire avec la dette. Alors, on sait que depuis un certain temps, ça a pris une ampleur particulière à l'automne 2005, lorsque le manifeste pour un Québec lucide a été rendu public. La dette publique a pris l'allure d'une question de vie ou de mort. Il fallait absolument rembourser la dette publique parce que cette dette publique aurait atteint des sommets insoutenables qui fait peser sur les finances publiques un poids intolérable, c'est-à-dire des versements en intérêts qui sont prohibitifs et qui menacent les programmes sociaux. On a joué beaucoup aussi démagogiquement sur le fait que ça met en péril les générations futures, parce que si on ne rembourse pas la dette aujourd'hui, on la transmet à nos enfants. Et là, Lucien Bouchard y était allé, j'avais sorti mon mouchoir, parce que il parlait de nos enfants et de ce qui les guettait, les huissiers frappant à la porte, et etc. On a utilisé de beaucoup de démagogie. Et d'autre part, on expliquait que cette dette était d'autant moins justifiable qu'elle avait été essentiellement contractée pour payer les dépenses d'épicerie, très peu pour les immobilisations. Autrement dit, à la réponse à la question posée au titre de la conférence d'aujourd'hui, la dette de l'État est-elle un investissement? Ce que les lucides se trouvaient à dire, c'est qu'essentiellement, non, la dette de l'État correspond aux dépenses d'épicerie. Et moi, ce que je vais vous démontrer, c'est le contraire. Ensuite, on expliquait aussi que ça, c'était encore pire, la situation de la dette élevée, dans un contexte de vieillissement de la population et de déclin démographique, parce que ce sera encore plus difficile plus tard de payer pour les dépenses de santé qui vont nécessairement s'accroître avec le vieillissement de la population. Alors, moi, ce que je défends, publiquement depuis l'automne dernier, même avant, parce que j'avais participé un peu dans les médias au débat à la suite de l'apparition du manifeste des Lucides, c'est que il est inopportun de rembourser la dette. Et pourquoi est-il inopportun de rembourser la dette? Ben, pour trois raisons fondamentales que j'ai résumées au milieu de la page suivante. D'abord, parce que le poids relatif de la dette par rapport au PIB diminue de lui-même si la croissance du PIB est plus forte que la croissance de la dette. Je vous ai dit tout à l'heure que la dette en soi, le montant de la dette, ça ne veut rien dire. La seule chose qui a vraiment un sens, c'est qu'est-ce que représente la dette par rapport à la capacité productive de l'économie. Donc, la question importante à se poser, c'est ce n'est pas de savoir si la dette augmente d'une année à l'autre, parce qu'elle augmente d'une année à l'autre. C'est de savoir si, en augmentant d'une année à l'autre, elle s'accompagne d'une croissance du PIB qui est plus forte, de sorte que le rapport de la dette au PIB diminue. Je vous dis que vous pouvez vérifier les chiffres officiels et vous allez constater que depuis au moins... Il faut se situer par rapport à une date clé, qui est la date de 1998, parce qu'à ce moment-là, le gouvernement a modifié la méthode de comptabilité par une réforme comptable. Depuis cette date, le rapport de la dette au PIB, d'abord, la dette n'a cessé d'augmenter, d'une moyenne de 2 à 3 milliards de dollars par année, mais le rapport de la dette au PIB n'a cessé de diminuer. Et ce que je vous dis quand je dis qu'il est inopportun de rembourser la dette, pour une première raison, parce que le rapport de la dette au PIB diminue de lui-même avec une croissance du PIB supérieure. J'ai l'air d'un hérétique aujourd'hui. Mais je vous dirais qu'en 1996, après le référendum, lorsque Lucien Bouchard est arrivé au poste de premier ministre, il a organisé une grande conférence socio-économique qui a réuni les représentants de tous les secteurs de la société. De cette conférence est ressorti un consensus. Il fallait réaliser l'équilibre budgétaire, mais pour ce qui est de la dette, on n'avait pas besoin de s'en occuper parce qu'elle allait diminuer d'elle-même en termes relatifs avec la seule croissance du produit intérieur brut. C'était le consensus social. Aujourd'hui, c'est hérétique. Et celui qui présidait à ce consensus social, c'était Lucien Bouchard. La dette, à ce moment-là, représentait 52 % du produit intérieur brut. Ce n'était pas important de la rembourser. Aujourd'hui, elle ne représente que 43 % et ça devient une urgence nationale. Vous allez me dire quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Alors moi, je préfère m'en remettre à la tendance qu'on observe, qui fait que depuis cette date-là, on a diminué de 10 points de pourcentage et puis que la dette a augmenté de 25 milliards pendant ce temps-là. Pourquoi a-t-elle augmenté? On le verra tout à l'heure. Et elle a augmenté cette année encore de 4 milliards, ce qui est une augmentation plus importante qu'au cours des années précédentes. Mais elle a augmenté de 4 milliards essentiellement parce que le gouvernement a procédé à de très importants investissements en infrastructure. Est-il important de le faire? La dette de l'État est-elle un investissement? Je crois que oui. Et d'ailleurs, le discours du gouvernement libéral a changé du tout au tout en un an. Si vous lisez les documents budgétaires de l'an dernier et que vous lisez ceux de cette année, vous allez voir que l'an dernier, il n'y en avait que pour le remboursement de la dette. Cette année, partout, il est expliqué que la dette, c'est pas si terrible que ça, parce que regardez, il y a des beaux graphiques, regardez la pente est descendante, le rapport de la dette au PIB a diminué, et il continue de diminuer, et même cette année, en un an, il y a eu une croissance du PIB très faible, une forte, très forte croissance de la dette, et puis on est resté à peu près kif-kif avec une très légère diminution. Bien évidemment, quand on parle de croissance du PIB, on parle toujours de ça sur une longue période. Et dans une longue période, il y a des périodes, disons, où la croissance est plus forte, des périodes où la croissance est plus faible. L'année dernière, la croissance a été relativement faible et la dette a augmenté relativement vite. Malgré tout, il n'y a pas eu d'augmentation du rapport de la dette au PIB. Au contraire, il y a eu une légère diminution. Donc, ce n'est pas tout à fait hérétique de prétendre que il y a autre chose à faire que de s'occuper de rembourser la dette et puis que, en particulier, de s'occuper de trouver les moyens de favoriser la croissance. On y reviendra. Deuxièmement, et là, je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Deuxièmement, la deuxième raison, c'est parce que quand on rembourse la dette, ça représente un coût, ça. Et puis, par rapport au coût, il faut essayer de savoir quelle est l'économie qui est réalisée. On rembourse la dette, soi-disant, pour réduire le coût du service de la dette, c'est-à-dire des intérêts qu'on paye sur la dette. Je vais vous démontrer que ce qui s'est passé, ce qui se passe dans la norme des choses, c'est que ça coûte plus cher de rembourser la dette que ce qu'on réalise en économie en la réduisant. Je vais y revenir. Et troisièmement, parce que ce qu'on nous dit continuellement au sujet du conflit entre les générations, moi je dis c'est un leurre. Parce que le vrai conflit entre les générations, nous allons le créer si au lieu d'investir aujourd'hui des sommes d'argent importantes dans les services publics, dans l'éducation, dans la santé, on utilise cet argent-là pour rembourser la dette. Parce que là, à ce moment-là, c'est les générations futures qui vont subir les conséquences, parce qu'on ne leur aura pas légué ce qu'il faut leur léguer pour faire en sorte que le bien-être, tant des générations futures que de la génération actuelle, soit assuré. Je vais illustrer maintenant ces trois raisons pour lesquelles il est inopportun de rembourser la dette. Le premier exemple, c'est au sujet de la croissance du PIB plus rapide que la croissance de la dette. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le rapport de la dette au PIB du gouvernement du Canada, c'était 100% du PIB. Vous allez me dire, c'est énorme, oui, et c'est toujours ce qui arrive après une guerre. Parce que, à l'occasion d'une guerre, on fait des dépenses énormes, évidemment des dépenses pour fin de destruction, parce qu'on produit des bombes et qu'on détruit immédiatement en détruisant du monde et des infrastructures, etc. Mais du point de vue économique, ça se traduit par, inévitablement, une très forte augmentation de l'endettement public. Et la dette du Canada par rapport au PIB, donc, représentait 100% du PIB. Ça, c'est en 1945. 30 ans plus tard, en 1975, le rapport de la dette au PIB au Canada avait diminué à 18%, sans aucun remboursement de la dette. Du simple fait que le gouvernement du Canada n'a pas remboursé un seul sou, il n'a pas réduit la dette du tout. Mais il y a eu une croissance du produit intérieur brut qui a été assez forte pour que le rapport de la dette au PIB diminue à 18%. Après ça, on s'est engagé dans une nouvelle période de déficit et puis d'augmentation de la dette, qui est due à toutes sortes de choses, je n'entrerai pas là-dedans, mais le résultat, c'est qu'on est arrivé, si vous regardez au haut de la page 3, il y a un certain nombre de chiffres. La dette du Canada, représentant les déficits cumulés, avait atteint 563 milliards en 1996-97, ce qui représentait 68% du produit intérieur brut. Donc, On était parti de 100 %, on avait diminué à 18 %, et puis une dizaine d'années plus tard, on était remonté à 68 %. Alors, le gouvernement du Canada, avec notre regretté Paul Martin, a décidé qu'il fallait rembourser la dette. Alors, Paul Martin s'est engagé dans un programme de remboursement de la dette parce qu'il a aussi pris les moyens pour y arriver, en pigeant allègrement, en particulier dans la Caisse d'assurance-emploi. Il a dégagé des milliards et des milliards, ce qui fait que pendant, sur une période de 9 ans, il a, en moyenne, dégagé des surplus de 9 milliards de dollars par année, ce qui veut dire que 9 fois 9, 81 milliards de surplus et 81 milliards de réduction de la dette. Ce qui veut dire que la dette, comme vous le voyez toujours au même paragraphe, avait été réduite à 482 milliards à la fin de 2005-2006. Et son rapport au PIB, qui était de 1370 milliards à cette date-là, avait chuté à 35 %. Donc, on était parti de 68 % en 1996-1997 et on se retrouve à 35 % en 2005-2006. Est-ce que cette réduction-là est attribuable à la réduction de la dette? Bien, on va voir dans quelle proportion. S'il n'y avait eu aucun remboursement de la dette, si la dette était restée à 563 milliards et qu'on en fait le rapport au produit intérieur brut atteint en 2005-2006, à ce moment-là, le rapport aurait été de 41 % sans aucun remboursement. Alors, si vous voyez les zones ombragées, là, les deux situations qu'il faut comparer, c'est la réduction de 33 points de pourcentage, c'est-à-dire de 68 % à 35 % mais avec un remboursement de 81 milliards, c'est beaucoup d'argent, comparé à une réduction de 27 points de pourcentage, 68 moins 41, sans aucun remboursement. Ce que ceci nous démontre, c'est que 27 sur 33, ou 82 % de la réduction du rapport de la dette au PIB au cours de ces 9 années, est le résultat non pas de la réduction de la dette, mais de la seule croissance du produit intérieur brut. Donc, on peut se glorifier, le gouvernement du Canada peut dire, hey, on a réduit la dette, on est passé de 68 % à 35 %. Oui, mais il y a 82 % de cette réduction-là qui ne vient pas du remboursement de la dette, mais qui vient de la seule croissance du produit intérieur brut. Dans un cas, ça a coûté 81 milliards. Dans l'autre cas, ça n'a pas coûté un seul sou. Ça n'aurait pas coûté un seul sou. Ça a coûté 81 milliards. Or, ces 81 milliards-là, vous pouvez vous imaginer qu'on aurait pu les utiliser à autre chose. En particulier, on aurait pu renflouer la Caisse d'assurance-emploi qui a été pillée de 50 milliards pendant cette période-là. Et il y aurait resté encore, alors 50 milliards soustrait de 80, il y aurait resté 31 milliards qui auraient très bien pu être utilisés pour régler le déséquilibre fiscal. Alors, ce n'est pas ce qu'on a fait. On a préféré mettre de l'argent dans la réduction de la dette pour faire un travail que la croissance du PIB fait beaucoup mieux et beaucoup moins cher. Si, ça c'est pour le Canada. Maintenant, je vous donne un exemple semblable pour le Québec. J'ai parlé du Fonds des générations tout à l'heure, et je vous ai dit que l'objectif du Fonds des générations, en le créant, le gouvernement a dit, son objectif, c'est de réduire de 43 % à 25 % le rapport de la dette au produit intérieur brut sur une période de 20 ans et d'accumuler à cet effet-là une somme de 30 milliards. Alors, l'objectif, c'est d'arriver au bout de 20 ans à avoir 30 milliards de dollars dans le fonds des générations. Comment y arriver? En investissant dans le fonds des générations le produit de redevances sur l'eau payé par Hydro-Québec et des producteurs privés. Et évidemment aussi le fruit des rendements du fonds en question. Alors, voyons ce qu'il en est de cette initiative du Fonds des générations. Et pour ça, je vous invite à aller complètement à la fin du document et de prendre le tableau numéro 3. Au tableau numéro 3, il y a beaucoup de chiffres là-dedans, mais je vais vous expliquer, c'est très simple. D'abord, la première colonne, c'est la numérotation des années, de 0 à 35, c'est sur un horizon de 35 ans, qui part en 2006-2007 pour aller jusqu'en 2041-42, dans la colonne suivante. Dans la colonne suivante, j'inscris le montant de la dette. Alors, le montant de la dette en 2006-2007, c'est-à-dire à la fin de 31 mars 2007, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 122 milliards, la dette totale. Je suppose que la dette va continuer à augmenter de 2 milliards par année en termes réels. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire 2 milliards de dollars plus l'inflation chaque année, de manière à ce qu'on ait une somme à peu près semblable qui augmente d'année en année, mais en tenant compte du fait que les dollars de cette année ne sont pas des dollars de l'année prochaine parce qu'il y a eu l'inflation entre-temps. Donc, je fais augmenter la dette, comme vous voyez. Elle est d'abord à 122 milliards en 2006-2007. L'année suivante, elle est à 124, 126,04 et ainsi de suite. Et si vous allez jusqu'en 2025-2026, c'est-à-dire l'année où le Fonds des générations en sera à son 20e anniversaire, et l'année où le Fonds des générations aurait dû permettre de réduire la dette, le rapport de la dette au PIB à 25 %, à ce moment-là, la dette, comme vous le voyez, sera de 167,68 milliards. Tout le monde localise ça sur le tableau. 167,68 milliards. Bon. En même temps, comment est-ce que le produit intérieur brut augmente? Alors ici, je fais une hypothèse très conservatrice. Quand on parle de l'augmentation du produit intérieur brut, il faut toujours distinguer l'augmentation du produit intérieur brut réel du produit intérieur brut nominal. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Quand on parle du produit intérieur brut réel, on parle de la croissance réelle de l'économie, sans tenir compte de l'inflation. Autrement dit, en quantité de biens et services produits, là, l'augmentation réelle, c'est, par exemple, au cours des 20 dernières années, ça a été entre 2 et 2,2 % Chaque année, on a produit de 2 à 2,2 % en moyenne de plus que l'année précédente. Quand je dis 2,2 % de plus, d'un point de vue matériel, en nombre, si vous voulez. Mais évidemment, en dollars, ben là, il faut tenir compte de l'inflation et il faut rajouter, je suppose, ici un taux de 2 % d'inflation, c'est le taux cible de la Banque du Canada et c'est en moyenne aussi le rythme auquel l'inflation a augmenté au cours des dernières années. Donc, je suppose, moi, un taux de croissance du produit intérieur brut réel bien inférieur. Au lieu du 2 ou 2,2 %, je suppose 1,70 %. Je fais ça parce que je ne veux pas mettre les avantages de mon côté, je veux mettre les désavantages de mon côté, de manière à ce que la démonstration que je vous fais soit encore plus convaincante. Donc, je suppose, vous le voyez, c'est écrit, taux de croissance du PIB réel, 1,70, taux d'inflation, 2 %, ce qui donne un taux de croissance du PIB nominal, c'est-à-dire en dollars courants de chaque année, de 3,73 %. Si vous regardez comment est-ce que le PIB évolue à ce rythme-là, ben vous voyez qu'il commence à 284 milliards, c'est le produit intérieur brut de l'année 2006-2007, et là, il augmente d'année en année pour atteindre, en 2025-2026, 569,9 milliards de dollars. Faites le rapport entre la dette de 167,68 et le PIB de 569,9, vous arrivez à 29,4. L'objectif du Fonds des générations, c'est d'arriver à 25. Il y arrive, mais en déboursant 30 milliards. Ici, sans débourser un seul sou, et malgré le fait que la dette augmente, on arrive à 29. Donc, on est à un petit écart de 4. Vous voyez, ça prend 6 années de plus pour arriver à 25, sans débourser un seul sou. Alors, si vous revenez à la page 3, au paragraphe où vous voyez le terme « fonds des générations », vous avez, en comparant les deux situations, un peu comme on a fait tout à l'heure pour comparer les deux situations pour la dette du gouvernement fédéral, on part de 43 % pour arriver à 25 %. Ça, c'est l'objectif du fonds des générations. Donc, 18 points de pourcentage de réduction et au coût de 30 milliards. Dans l'autre cas, on a 14 points de pourcentage, c'est-à-dire la réduction de 43 à 29, c'est l'exemple que je viens de vous montrer sur le tableau, sans aucun remboursement. À ce moment-là, comme vous voyez, 14 sur 18, ou 78 % de la réduction que le gouvernement vise à obtenir dans 20 ans cette réduction, donc 78 % presque 80 % de cette réduction-là, elle aurait été le résultat non pas de l'accumulation de 30 milliards dans le fonds de génération, mais bien de la croissance du produit intérieur brut, et ce, à un taux relativement faible. Donc, j'espère vous avoir démontré par là que consacrer des ressources à la réduction de la dette, mettre de l'argent dans le fonds de génération ou ailleurs, c'est deux méthodes différentes. Hein, comme vous voyez, le gouvernement fédéral, lui, il réduit la dette. Carrément, il n'y a pas de fonds de génération. Le gouvernement du Québec, il ne réduit pas la dette, mais constitue un fonds où les actifs s'accumulent à côté. Puis là, après ça, il dit, je fais la somme ou la différence entre ma dette qui continue à augmenter et ce que j'accumule dans le fonds. Puis là, je réduis un petit peu par rapport à ce que ça aurait été s'il n'y avait rien, il n'y avait pas eu de fonds. Mais dans les deux cas, bon, il y a une réduction de la dette. Mais dans les deux cas, c'est de l'argent qui est mis là-dedans et dont on constate qu'ils permettent d'arriver à un résultat auquel on arrive pratiquement aussi bien, avec un petit peu plus de temps, mais sans frais, au bout dans les horizons considérés. Alors, je passe à la raison suivante. J'ai parlé de la première raison, pourquoi il ne faut pas rembourser la dette, parce que la croissance du PIB réduit par elle-même, si elle est plus rapide que la croissance de la dette, le rapport entre la dette et le PIB. Et c'est ce qui est l'objectif, c'est de réduire ce rapport-là. La deuxième raison, c'est que le coût de la réduction de la dette est plus élevé que les économies qui en découlent. Là, ici, vous me direz une chose, comment ça se fait? Parce que quand on entend parler les lucides, ils nous disent, écoutez, le service de la dette a atteint des sommets exorbitants. Il faut absolument qu'on réduise la dette pour réduire le service de la dette. C'est très bien en soi, bien content. Mais c'est curieux parce qu'il y a beaucoup d'économistes là-dedans. Et ils ne parlent que des bénéfices qui sortent de cette opération-là. Ils ne parlent pas des coûts. Avez-vous déjà vu des économistes qui ne considèrent que les bénéfices et qui oublient les coûts? Alors, moi, je vais vous montrer que les coûts sont plus élevés que les bénéfices. Je vous demande de prendre le tableau 1. Alors, dans le tableau 1, il y a toujours dans les mêmes colonnes, là, les premières colonnes, c'est les années, puis ensuite, la dette. Alors, cette fois-ci, au lieu de considérer, comme tout à l'heure, que la dette augmente, je considère qu'on consacre chaque année 1 milliard de dollars au remboursement de la dette et qu'elle n'augmente pas par ailleurs. Je simplifie un peu, mais pour faire sortir, c'est qui doit ressortir de cette analyse-là. Donc, si la dette est de 122 milliards, qu'on la réduit d'un milliard la première année, on arrive à 121, on la réduit d'un milliard encore l'année suivante, 120 et ainsi de suite, puis ça diminue jusqu'à 87, ici, pour l'horizon qui est considéré. Qu'est-ce qui en découle du point de vue des frais d'intérêt? Parce qu'il faut payer l'intérêt sur la dette. Alors, je suppose un taux d'intérêt de 6 % qui est à peu près le taux d'intérêt moyen actuellement sur la dette. Sur l'ensemble de la dette. Quand je dis le taux d'intérêt moyen, c'est parce qu'il y a certains, vous savez, la dette, elle n'a pas toute été contractée au même moment. Il y a des éléments de la dette qui ont été contractés pour 20 ans en 1986. Il y en a échéance cette année, ou ils sont venus à échéance l'an dernier. Il y en a d'autres éléments de la dette qui ont été contractés pour 35 ans à un autre moment. Ils vont devenir à échéance. Et au moment où ils ont été contractés, souvent, ils l'ont été à un taux d'intérêt très élevé. Aujourd'hui, le taux d'intérêt est beaucoup plus bas, mais dans l'ensemble, en moyenne, ça fait un taux d'intérêt d'à peu près 6 % sur l'ensemble de la dette. Alors, je prends donc 6 %. Et je dis, si je réduis, supposons que le gouvernement réduit la dette d'un milliard une année, ça veut dire qu'il devra payer de l'intérêt sur un milliard de moins. De l'intérêt sur un milliard à 6 %, c'est combien? 60 millions. Alors, ça veut dire que vous voyez dans la colonne économie d'intérêt annuelle puis économie d'intérêt cumulative. L'économie d'intérêt la première année, c'est 60 millions. 0,06 milliards. Tout est en milliards ici. 60 millions. On a économisé 60 millions, mais combien ça a coûté pour économiser 60 millions cette année-là? Ça a coûté 1 milliard. Donc, on est dans le trou de pas mal d'argent. On a économisé 60 millions, mais on a payé 1 milliard pour économiser 60 millions. Continuons. L'année suivante, on réduit encore d'un milliard. Ça veut dire que la dette est de 120 milliards et l'intérêt sur la dette, il est maintenant de 120 millions. Donc, on paye 120 millions, c'est-à-dire, pas l'intérêt sur l'économie d'intérêt sur la dette est de 120 millions. On a économisé 120 millions, mais on a payé un autre milliard. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez vers la zone ombragée, dans 15, 16 ou 17 ans, là, c'est-à-dire, en fait, le chiffre exact, c'est 16,7 années. 16 ans plus tard, l'économie annuelle d'intérêt, elle arrive à 1 milliard. Donc, l'économie d'intérêt, cette année-là, elle est 1 milliard, et on a déboursé 1 milliard. Donc, on est kiff-kiff. Mais pendant les 15 années précédentes, on a payé plus que ce qu'on a économisé. Si vous poursuivez l'étude plus loin, c'est l'inverse qui se produit. On réduit d'un milliard, mais on économise un petit peu plus qu'un milliard chaque année. Et on arrive finalement, au bout de 32 ans, un petit peu plus que 32 ans, vous voyez que l'économie cumulative d'intérêt, elle aura été de 32 milliards, alors que le coût cumulatif de la réduction de la dette aura été de 32 milliards. Autrement dit, en 32 ans, on a économisé 32 milliards, mais il a fallu payer 32 milliards pour économiser 32 milliards. Beau résultat. Alors, je pense que je ne trompe personne en vous expliquant ça, sauf que avez-vous déjà entendu un lucide vous parler des coûts de la réduction de la dette? Il ne parle que des intérêts qui vont être réduits. Oui, bien sûr. Mais c'est pour réduire mes intérêts, je suis obligé de payer considérablement plus et qu'au bout de 30 ans, j'arrive kiff-kiff. Je ne crois pas que cette opération-là aurait été particulièrement fructueuse. L'autre élément, c'est que on nous dit souvent qu'il faut réduire les taux de l'intérêt de manière à ce que on accroisse la marge de manœuvre. Alors, je vous invite à regarder ici. Par exemple, quand on parle de la marge de manœuvre, ça veut dire que il faut, à l'intérieur du budget annuel, dégager des sommes supplémentaires pour payer en particulier les futures dépenses considérables qui, apparemment, devront être payées pour, en particulier, la santé avec le vieillissement de la population. Ce qui veut dire que dans un budget annuel, aujourd'hui, mettons en 2006-2007, vous avez dans la dernière colonne à droite, vous avez le rapport du service de la dette au budget. Ou autrement dit, le service de la dette en pourcentage du budget. Vous lisez 12,9% pour 2006-2007. Ça veut dire ça que la totalité du budget de 2006-2007, il y a 12,9 cents pour chaque dollar qui est destiné au remboursement des intérêts, au paiement des intérêts sur la dette. OK? On y reviendra tout à l'heure parce que même ça, c'est contestable, mais mettons qu'on prend ça comme ça. 12, presque 13 cents par dollar qui vont au paiement des intérêts. Alors là, ça, c'est un des arguments des lucides. C'est épouvantable. Rendez-vous compte, on dépense 13 cents dans la pièce à chaque année pour payer uniquement des intérêts, ce qui ne nous rapporte rien et qui, par conséquent, grève les services. Voyons ce qui se passe au bout de 15 ans. Vous descendez, vous allez en 2021-2022, et là, vous avez un chiffre qui est en ombragé, 6,5. Alors, dans 15 ans, ce qui était 13 cents pour chaque dollar d'affecté au paiement des intérêts, c'est devenu seulement 6,5 cents. Alors, évidemment, ça veut dire que la marge de manœuvre elle a été améliorée. Est-ce que cette marge de manœuvre, cette amélioration de la marge de manœuvre, elle est due au fait qu'on a réduit la dette? Bien, pour nous en convaincre, prenons le tableau 2. Et alors, le tableau 2, il est exactement identique au tableau 1, sauf pour une chose, c'est qu'il n'y a pas de remboursement de la dette du tout. On met, comme vous voyez, il y a 4 colonnes de zéro, là. C'est parce qu'il n'y a ni économie, ni coût de réduction, parce qu'on ne rembourse rien. La dette, elle reste à 122 tout le temps. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la première année, le service de la dette en pourcentage du budget, il est toujours de 12,9%. Mais comme le produit intérieur brut, lui, augmente, même si la dette ne change pas, au bout de 15 ans, ce qu'on doit dépenser pour payer les intérêts, c'est 7,4 cents pour chaque dollar. Donc, on a quand même dégagé une marge de manœuvre assez importante, sans aucun remboursement de la dette. Et si vous comparez avec ce qu'on avait tout à l'heure, ça coûtait 6 cents et demi pour chaque dollar. En remboursant 1 milliard par année, ça coûte 7,4 cents par dollar sans avoir remboursé un seul sou. Ce qui veut dire que la marge de manœuvre qu'on dégage ici, encore une fois, elle n'est absolument pas pour la peine attribuable à la réduction de la dette. Elle est attribuable à la stricte augmentation du PIB. Donc, ni sur le plan des économies d'intérêt par rapport aux coûts, ni sur le plan du dégagement d'une marge de manœuvre, on peut parler d'une opération efficace. Et évidemment, pour ce qui est des générations, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est évident que j'avais donné trois raisons. Je vous avais dit, en troisième lieu, c'est parce que tout dollar consacré à la réduction de la dette est un dollar en moins, etc. Alors, c'est évident que ici, si on prive la génération actuelle de ressources qu'on voudrait destiner à la réduction de la dette, quel est le résultat? Et on le fait sous prétexte de régler un conflit entre les générations. Hein? C'est ça qui est à l'origine de cette opération de réduction de la dette. Non seulement, si on faisait ça, non seulement on hypothéquerait la génération actuelle en n'investissant pas dans les services publics, dans les infrastructures, dans l'éducation, dans la santé, mais on hypothéquerait tout autant les générations futures, parce que le passif auquel les générations futures auraient à faire face serait beaucoup plus important. Les générations futures bénéficieraient d'une réduction très relative de la dette, mais les effets de cette réduction seraient encore plus relatifs, puis entre-temps, on n'aurait pas investi pour les générations futures. Donc, il est beaucoup plus important d'investir tous les argents, toutes les sommes d'argent qui sont destinées à la réduction de la dette dans l'amélioration des infrastructures, dans l'amélioration du système d'éducation, de manière à favoriser une plus grande productivité, une plus grande innovation pour que la production permette de s'accroître plus rapidement et bénéficiant ainsi tant aux générations futures qu'à la génération actuelle. Il y a donc une immense solidarité des générations ici, et non pas un conflit, comme le prétendent les lucides. C'est exactement le contraire. Et si on veut que les générations soient soudées ensemble, bien, il faut investir aujourd'hui dans les services qui vont servir à la génération actuelle et qui sont absolument nécessaires, fondamentaux, pour les générations futures également. J'en arrive à l'autre point. Qui s'intitule « Mettre les pendules à l'heure ». Oui, il y a une chose aussi que je voulais dire, c'est parce que, je ne sais pas si vous avez vu l'émission vendredi soir, mais elle a été annoncée par des capsules à la télévision plusieurs fois, et puis ces capsules-là me faisaient dire à peu près le contraire de ce que je dis, donc je vais le répéter pour que ce soit bien clair. Pour conclure cette partie de l'exposé, je dirais que il faut absolument arrêter de parler de réduction de la dette sans dire que les sommes qu'on pourrait mettre dans le remboursement de la dette, même si on allait jusqu'à 1 milliard de dollars par année, c'est énorme, seraient à la fois trop élevées pour les ressources dont on dispose. Aller chercher 1 milliard dans l'économie aujourd'hui, où est-ce qu'on va chercher ça? C'est trop élevé pour les ressources dont on dispose, mais c'est aussi bien inférieur à ce qui serait nécessaire si on voulait vraiment réduire la dette. Vous avez une dette, disons, qui est de 122 milliards aujourd'hui. Réduisez-la à 1 milliard au rythme d'un milliard de dollars par année, et là, vous avez les quatre générations dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Hein? 122 ans pour rembourser une dette de 122 milliards au rythme d'un milliard par année. Franchement, soyons sérieux et puis arrêtons de parler de lubies de ce genre-là. Donc, j'en arrive maintenant à mettre les pendules à l'heure. Quand je parle de mettre les pendules à l'heure, ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de dogmes qui sont véhiculés dans l'opinion publique, en particulier par la propagande que j'appelle translucide des lucides. Le mot translucide, si vous ouvrez le dictionnaire, vous allez voir qu'il signifie qu'il laisse passer la lumière sans toutefois permettre d'identifier correctement les objets. Alors, c'est pour ça que je parle de la propagande translucide de nos lucides. Et cette propagande translucide, elle véhicule, entre autres, le fait que l'augmentation de la dette depuis 1970, elle serait essentiellement attribuable à un excès de dépenses d'épicerie. Ce qu'on appelle les dépenses d'épicerie, ce sont des dépenses courantes par opposition aux dépenses d'investissement. Et parmi les dépenses courantes, appelées dépenses d'épicerie, il y a évidemment nos salaires. Hein? Et puis, je parle nos salaires parce que, bon, peut-être que je parle par extension parce que, comme maintenant je ne suis plus actif, mais mon salaire a été un salaire du secteur public et parapublic. Et puis, comme les salaires de tous les employés des services publics. Mais c'est aussi les dépenses de fonctionnement, c'est le chauffage, c'est l'entretien, c'est etc. Alors, autrement dit, la dette, d'après les lucides, elle serait essentiellement le résultat d'un excès de dépenses d'épicerie. On aurait vraiment gaspillé, dépensé pour rien. Très peu, ou de manière négligeable, pour constituer des infrastructures. Et d'autre part, les frais d'intérêt qui sont versés sur cette dette s'élèveraient à 7 milliards de dollars par année, c'est un petit peu le montant qui correspond à 13 cents par dollar de budget dont je parlais tout à l'heure. Alors, je vais vous dresser un portrait qui est différent de celui-là, et encore une fois, je ne fais pas de l'idéologie ici. Ce que je vous cite, ce sont des chiffres qui sont tout à fait vérifiables. Vous pouvez les vérifier si vous ne voulez pas aller fouiller dans les documents budgétaires. Ils sont reproduits dans mon livre du point de vue de l'augmentation de la dette. Si vous regardez ces chiffres-là, ils sont republiés chaque année. À chaque budget, le gouvernement republie les chiffres de l'évolution de la dette depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un secret pour personne, c'est public, c'est accessible, très facilement accessible. Alors, si vous regardez, qu'est-ce qui est à l'origine de l'augmentation de la dette pendant les 30 années, par exemple, qui se sont écoulées, de 1970 jusqu'à 2000, plus précisément jusqu'en 1998, parce que c'est en 1998 que s'est produit au niveau du gouvernement une réforme comptable importante. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, si vous regardez ces chiffres-là, vous allez constater que l'augmentation de la dette pendant de 1970 à 1998, elle est à 42 % le résultat de la prise en compte des engagements du gouvernement envers les régimes de retraite. C'est-tu des dépenses d'épicerie, ça? Des engagements du gouvernement envers les... Premièrement, c'est une dette qui est une simple reconnaissance de dette, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. 42 %. Et je vous signale également, je l'ai déjà fait, mais je le refais, que cette comptabilité-là, de ces engagements-là, les pays d'Europe ne le font pas. Ils n'en tiennent pas compte de ça. Les pays d'Amérique latine non plus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, en ce moment, de très forte pression des milieux financiers pour qu'ils finissent par le faire et qu'ils commencent à créer des régimes de retraite capitalisés. Le capital financier a un intérêt fondamental à ça. Mais pour l'instant, ça échappe encore à ça. Alors, ici, quand on dit qu'il y a 75 % de la dette qui est le résultat d'un excès de dépenses d'épicerie. C'est pur mensonge. Regardez les chiffres qui sont présentés dans les statistiques gouvernementales. 42 % de l'augmentation de la dette entre 1970 et 1998 est le résultat de l'intégration progressive d'abord et intégrale en 1998 des engagements envers les régimes de retraite. Depuis, ça a diminué et ça diminue chaque année parce que, en même temps, le gouvernement a décidé en 1993 de constituer ce qu'il appelle un fonds d'amortissement des régimes de retraite, qui est un fonds en voie de capitalisation et qui, plus tard, servira à payer des prestations de retraite aux employés. Mais pour l'instant, ce fonds-là, il est strictement en voie d'accumulation. Il n'y a rien qui est retiré de ce fonds-là. Donc, première des choses. Deuxième chose, quand on dit que 75 % quand le gouvernement dit, et ses experts, que 75 % des dépenses de la dette est le résultat d'un excès de dépenses courantes, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que jusqu'en 1998, les dépenses courantes, là, elles comprenaient les dépenses d'immobilisation. Tout, autrement dit, il n'y avait pas de distinction. Maintenant, on ne comptabilise plus les dépenses d'acquisition d'immobilisation dans les dépenses budgétaires. On les comptabilise dans des opérations dites non budgétaires. Et dans les opérations budgétaires, on ne comptabilise que l'amortissement annuel. Je ne veux pas entrer dans ces considérations-là, qui sont peut-être un peu compliquées, mais je pense que n'importe qui peut comprendre que pendant presque 30 ans, on a comptabilisé les dépenses d'immobilisation parmi les dépenses courantes et qu'on est malvenu de dire ensuite que 75 % de la dette est attribuable aux dépenses d'épicerie. Il faut au moins faire la part des choses puis essayer de voir parmi les dépenses courantes qu'est-ce qu'il y avait comme proportion de dépenses d'immobilisation et qu'est-ce qu'il y avait comme proportion de dépenses qui n'étaient pas des dépenses d'immobilisation. Parce que les dépenses courantes comprenaient tout. Donc, il faut faire la part des choses. Et moi, je l'ai fait parce que, heureusement, jusqu'en 1998, on donnait ces chiffres-là. On séparait les dépenses d'immobilisation des autres dépenses courantes. Alors, c'est facile à faire, le calcul. Et le calcul que j'ai fait, moi, c'est que c'est 68 % des besoins financiers. C'est pas écrit dans le texte. Je n'ai quand même pas tout mis sur papier, là, quand même. 68 % des besoins financiers du gouvernement sont le résultat de besoins financiers destinés aux dépenses d'immobilisation. Et 32 % étaient destinés à ce qu'on pourrait appeler des excès de dépenses courantes, mais qu'on pourrait appeler aussi des insuffisances de revenus. Ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses. Pour les analystes qui sont toujours en train de dire qu'il faut réduire le service public puis qu'il faut réduire la dette, etc., pour eux, encore là, c'est une vision unilatérale du monde. S'il y a un problème, c'est parce qu'on dépense trop. C'est jamais parce qu'on ne va pas aller chercher assez de revenus, et en particulier au moment même où on réduit les impôts. Mais, donc, vous constatez ici, je pense, c'est très important, que, surtout aujourd'hui, si on se pose la question, la dette de l'État est-elle un investissement? Bien, moi, je réponds oui à 68 %, alors que les Lucides disent non, parce qu'à 75 %, c'est pour des dépenses d'épicerie. Et je vous invite à vérifier ces chiffres-là. Je ne vous compte pas de peur. Les chiffres existent. Et curieusement, le gouvernement n'en parle pas cette année. C'est bizarre, hein? Cette année, le gouvernement, dans ses documents budgétaires, il parle très peu de la dette. Et quand il en parle, c'est pour montrer que le rapport de la dette au PIB diminue. L'an dernier, il n'y en avait que pour les dépenses d'épicerie. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais en tout cas, c'est changement de discours. Mais je peux vous dire que moi, je vais continuer à marteler l'affaire et que je vais utiliser toutes les tribunes et je suis très, très heureux de vous dire que j'en ai eu amplement depuis que mon livre est sorti et puis que j'en ai plusieurs autres à l'ordre du jour et que je ne cesserai pas de répéter ces choses-là parce que je pense qu'il est temps que la vérité triomphe. Et quand je vous dis que la vérité triomphe, ben, elle est vérifiable. Alors, il faut la vérifier. Et tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, comme je vous dis, vous pouvez le vérifier. L'autre élément, voyez-vous, c'est une autre chose qui est absolument aberrante. C'est que depuis 1998, on a changé les choses. J'ai dit, on a cessé de comptabiliser les dépenses d'immobilisation parmi les dépenses courantes. Mais on fait un tour de passe-passe qui est assez étrange. Si vous prenez le petit schéma de la première page, vous avez la dette nette qui est égale à la dette attribuée aux immobilisations plus la dette attribuée au déficit cumulé. Saviez-vous comment on procède dans les documents gouvernementaux pour calculer la dette attribuée au déficit cumulé? On prend la dette nette. La dette nette, elle est facilement calculable parce qu'on part des éléments précédents, on ajoute la vraie dette, dette directe, on ajoute à ça les engagements au titre des régimes de retraite, puis on soustrait les actifs. Tout ça, ça se mesure. Et puis là, arrivé à la dette nette, le tour de passe-passe, c'est là qu'il se fait quand vient le temps de calculer la dette attribuée au déficit cumulé parce que le chiffre qu'on soustrait de la dette nette pour obtenir la dette attribuée au déficit cumulé, ce n'est pas la dette qui est le solde non amorti des emprunts réalisés pour acquérir des immobilisations. C'est le solde non amorti des immobilisations, c'est-à-dire le solde comptable. Quand on calcule l'amortissement, je vais être obligé de prendre 2 minutes pour vous expliquer ce que c'est. Quand on amortit un bien d'équipement. On estime sa vie utile, 30 ans, disons. Je prévois que la pièce d'équipement va durer 30 ans. Une route, mettons. Et puis, elle a coûté, disons, 30 ans, elle a coûté, mettons, simplifié, là, 300 millions. 300 millions. Si je veux savoir quel est l'amortissement annuel, je divise tout simplement 300 millions par 30 ans. C'est ce qu'on appelle une méthode de calcul de l'amortissement linéaire. Même montant d'amortissement par année. C'est un calcul qui est purement fictif. Je pourrais dire, j'estime que ça va être 20 ans. À ce moment-là, mon amortissement annuel serait différent. C'est une méthode comptable. Elle est universellement acceptée et elle est recommandée par l'Institut des comptables agréés, etc. Il n'en reste pas moins que c'est une comptabilité fictive. Quand si je dis chaque année, je soustrais du solde non amorti l'amortissement de l'année, bon, ben j'obtiens quelque chose qui est un nouveau solde, mais ça ne correspond en rien à la réduction de la dette qui était contractée pour acquérir cet amortissement, cette immobilisation-là. Entre-temps, je peux n'avoir remboursé rien. Si je n'ai rien remboursé, je dois le tout. Ben c'est pas comme ça que le gouvernement calcule. Le gouvernement dit comment calculer la dette qui est attribuable aux immobilisations au lieu de la dette attribuable, au lieu que ce soit le solde non amorti de la dette encourue pour acquérir les immobilisations, il calcule le solde non amorti de l'immobilisation. Et, autrement dit, il calcule un solde purement comptable. Ça n'a rien à voir avec un montant financier, c'est un montant comptable inscrit sur un bout de papier. Et de ça, ce montant-là, il le déduit de la dette nette pour obtenir la dette attribuée au déficit cumulé. Ça fait un gigantesque montant. Ça vous fait 92 milliards de dettes qui seraient attribuables au déficit cumulé. Et ce montant-là, il augmente chaque année, même s'il n'y a eu aucun remboursement. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se fait. Puis le gouvernement l'a expliqué au cours des 10 dernières années dans ses documents budgétaires. Cette année, il ne l'a pas expliqué. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme, disons, la méthode est là. Et le gouvernement fédéral fonctionne exactement de la même manière. Donc, quand on dit que la dette, elle est le résultat de déficits cumulés, et puis que ce montant-là, c'est la somme des déficits cumulés, encore là, allez dans les livres, allez chercher, prenez le déficit de chaque année, additionnez-le, c'est accessible, chaque année c'est publié. Vous additionnez tous ces déficits-là, et vous n'arriverez jamais à ce montant-là. D'autant plus que le montant du déficit cumulé des opérations budgétaires, ce n'est pas lui qui détermine le montant des besoins financiers. C'est la somme, c'est le solde global des opérations budgétaires et non budgétaires. Puis les opérations non budgétaires, d'ailleurs, le gouvernement n'arrête pas de dire aujourd'hui, on a adopté une loi sur l'équilibre budgétaire. L'équilibre est supposé être réalisé chaque année, puis il est à quelque chose près. Puis la dette augmente de 4 milliards par année. Comment ça se fait que la dette augmente de 4 milliards si y a une loi de l'équilibre budgétaire? Et si la dette attribuée au déficit cumulé augmente chaque année, alors qu'il n'y a pas de déficit. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Et là, quelque chose qui ne marche pas, bien, j'essaie de vous l'expliquer. C'est que on appelle un chat un chien et inversement. Ce qui veut dire qu'on arrive à des aberrations. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il est important que tout le monde soit sensibilisé à ça, pour qu'on sache que de quoi on parle lorsqu'on parle d'une dette qui est attribuée à certaines choses au lieu de l'être à d'autres choses. Une autre aberration, les frais annuels d'intérêt. On nous dit que le service de la dette est égal à 7 milliards de dollars par année. Ça tourne autour de ça depuis les 10 dernières années, un petit peu plus, un petit peu moins. Ça varie en fonction de l'augmentation de la dette, puis ça varie aussi en fonction de la diminution du taux d'intérêt, de sorte qu'au cours des 10 dernières années, ça s'est resté kiff-kiff autour de 7 milliards. Mettons 7 milliards pour simplifier. Alors ça, c'est quand on parle du service de la dette, si on revient à notre petit schéma du début, le service de la dette totale, là, c'est la somme de deux services de la dette. C'est le service de la dette directe plus le service de la dette qui est en fait une simple reconnaissance de dette sur les engagements envers les régimes de retraite. Le premier est un vrai service de la dette. Si je parle des intérêts sur la dette directe, ça c'est du vrai intérêt en monnaie sonnante parce que chaque année, ou chaque trimestre, ou chaque semestre, ça dépend de la manière dont la dette a été contractée, le gouvernement paie à ses créanciers l'intérêt sur la dette. L'autre partie de la dette, qui est une reconnaissance de dette que le gouvernement inscrit dans ses livres face au régime de retraite, à qui est-ce qu'il paierait ça, cet argent-là? Il impute une charge d'intérêt dans sa comptabilité, mais il ne verse à personne. Il faudrait que se la verse à lui. C'est envers lui que cette dette-là est contractée ou envers les futurs retraités. De sorte que ce ne sont pas 7 milliards de dollars qui sortent des coffres gouvernementaux chaque année pour payer des intérêts sur la dette, mais 4 milliards. Mais ça aussi, c'est une autre chose qu'il faudrait dire. Et en fait, si on fait la somme de tous ces éléments-là, de tout ce qui est dépenses fictives dans les dépenses budgétaires, parce que l'amortissement est une dépense fictive, l'intérêt sur la partie de la dette qui est une simple reconnaissance de dette, c'est aussi une dépense fictive. Et puis, il y a aussi ce que le gouvernement considère qui est sa charge annuelle envers les régimes de retraite, qui est tout simplement ce qu'il appelle le coût des prestations constituées, c'est-à-dire l'actualisation aujourd'hui de ce que représente l'année de service de cette année du point de vue du coût éventuel de versement des prestations dans le futur. Alors ça, il le calcule aussi, mais il ne verse pas cet argent-là. Alors pour compenser ça, il inscrit une somme du même montant, mais d'un signe différent dans les opérations non budgétaires. Alors tout ça, ce sont des dépenses fictives qui ont pour effet de gonfler les dépenses budgétaires et de réduire les dépenses de programme. Donc ça veut dire que en utilisant ce type de comptabilité, il y a une pression inévitable à la baisse sur les dépenses de programme. J'en arrive à... Je prends peut-être une dizaine de minutes, puis après ça, on passe... Ou si vous préférez, je pense qu'il faut qu'on quitte à 3h30, c'est ça qu'on nous a dit. Je vais très rapidement. Parce qu'il y a une chose que je pense qu'il faut dire aussi, c'est que tout ce que je viens de vous dire sur la dette... par rapport à la dette qui est considérée comme un boulet au pied de l'économie. Si on considère le capitalisme comme système et qu'on le considère globalement, on ne peut même pas, sans parler de l'opportunité ou de la non-opportunité de rembourser la dette, considérer que la dette est un simple boulet au pied de l'économie. Parce que cette dette-là, elle joue un rôle fondamental pour la croissance des marchés financiers, à une époque en particulier où, aujourd'hui, on le sait, on est dans un contexte où la déréglementation est la loi, que tout se déroule à l'échelle mondiale et puis que tout est finalement sous l'égide du capital financier. Donc, la dette publique si je peux prendre l'expression que tu utilisais par même, par le Fonds monétaire international à la fin des années 1990, le Fonds monétaire international caractérisait la dette publique comme étant l'épine dorsale des marchés financiers. Savez-vous quel est le montant de la dette qui circule sur les marchés financiers à l'échelle mondiale? Grosso modo, là, c'est simplement pour la dette, je parle de la simple dette des pays les plus industrialisés, les pays de la zone euro, le Canada, les États-Unis et le Japon, c'est une fois et demie le produit intérieur brut des États-Unis, c'est-à-dire 24 000 milliards de dollars. Ça, c'est le montant de la dette publique qui circule à travers le monde. C'est un montant gigantesque. Et évidemment, ce montant-là, ces montants-là, d'où pensez-vous qu'ils viennent? En particulier lorsqu'il s'agit de payer les intérêts sur la dette, bien, ils viennent des prélèvements qui sont effectués sur la partie de la population qui ne peut pas procéder à l'évasion fiscale. Donc, en fait, c'est une partie énorme du financement qui provient des poches des salariés, de tous ceux qui ne sont pas des propriétaires du capital, qui ne peuvent pas bénéficier ni des exemptions d'impôts ou de la fiscalité favorable qui leur permet d'acquérir ces titres-là, d'une part, puis ensuite de les voir fructifier et alimenter par l'argent qui vient de la fraction de la population qui n'a pas le moyen d'en posséder et qui n'a pas le moyen non plus d'esquiver l'impôt. Donc, il ne faut pas négliger cette composante-là des attributs de la dette. Et à ce niveau-là, je vous donnerai peut-être une petite allusion par rapport au Fonds des générations. Je vous ai dit tout à l'heure que le gouvernement fédéral, lui, réduit la dette. Le gouvernement du Québec ne la réduit pas, il la laisse augmenter, mais il constitue un fonds qui s'appelle le Fonds des générations. Et il considère que l'accroissement des actifs du fonds, en déduction de l'augmentation de la dette, ont pour résultat de réduire la dette totale. La différence n'est pas simplement une différence de forme, c'est aussi une différence importante du point de vue des marchés financiers. Parce que lorsque le gouvernement fédéral réduit sa dette, il retranche des marchés financiers une partie des fonds qui circulaient en raison du fait qu'il y avait une partie de sa dette qui était prêtée à divers intérêts. Quand le gouvernement du Québec met de l'argent dans le Fonds des générations, non seulement il ne réduit pas sa dette, donc il ne soustrait pas d'argent des marchés financiers, mais il en met plus dans les marchés financiers en alimentant le Fonds des générations. Ce qui veut dire que le Fonds des générations est un... Évidemment, vous allez me dire, en ce moment, il y a 500 millions de dollars dedans, ça ne fait pas une grosse différence. Quand il y en aura 30 milliards, ça fera une différence un peu plus grande. Je vais vous avoir de l'eau ici, moi. Comme vous voyez, le Fonds de génération, il y a un double objectif. Et je vous soumets à votre réflexion une explication qui n'est jamais fournie, mais qui pourrait peser dans la balance pour expliquer le fait que la cote de crédit du Québec a été augmentée. Pas parce qu'il a réduit sa dette ou parce que ses finances sont plus en santé qu'avant. Elles ne sont pas plus en santé qu'avant. Chaque année, il court après sa queue pour réaliser l'équilibre. Mais le fait de constituer un fonds, un nouveau fonds qui vient s'ajouter au marché financier, c'est un plus pour les marchés financiers. Je pense que ce n'est pas nécessairement étranger au fait que la cote du Québec ait été rehaussée par certaines agences de crédit. Je vais terminer en disant qu'est-ce qu'on fait par rapport à la dette. Bien, évidemment, la conclusion, elle est simple. Je pense que il est plus que temps, bon, premièrement, de ne pas la rembourser, mais il est plus que temps aussi qu'on cesse de considérer que cette dette-là, elle vient d'un excès de dépenses, puis qu'on commence un peu plus à regarder la question des revenus. Et à ce niveau-là, si jamais vous avez l'occasion, un peu plus de temps libre et que vous voulez lire un bon ouvrage là-dessus, il y a un document qui a été produit par la Confédération internationale des syndicats libres l'été dernier, avant qu'elle se fusionne avec la Confédération mondiale du travail pour donner une nouvelle fédération internationale. Et ça s'intitule « Le beurre et l'argent du beurre ». Et c'est une analyse percutante à travers le monde de l'effet de l'évasion fiscale et de ses incidences sur la réduction des services publics. C'est un excellent ouvrage et qui montre justement que ce n'est pas une question de réduction, d'excès de dépenses, mais que c'est fondamentalement une question d'excès d'avantages dont bénéficient les grandes multinationales principalement avec la complicité des gouvernements qui les laissent transporter leurs profits dans des paradis fiscaux, etc. On a vu le gouvernement du Canada agir avec un peu de courage. On peut s'interroger sur les motivations lorsqu'il a décidé de changer de cap sur la question de l'imposition des fiducies de revenus. Personnellement, je le félicite et je pense qu'il devrait aller beaucoup plus loin que ça et s'allier avec les autres gouvernements, mais ça reste à faire, pour contrôler l'évasion fiscale et le fait que des milliards et des milliards de dollars se trouvent à être mis à l'abri de l'impôt par le simple fait qu'elle transige d'un pays à l'autre et aujourd'hui à une vitesse formidable par le simple déclenchement d'une commande électronique. Donc, je termine là-dessus en disant que si on se réfère à la question qui a été posée, est-ce que la dette de l'État est un investissement? Je réponds oui. Est-ce qu'il faut rembourser la dette? Eh bien, je dis pour le bénéfice de la génération actuelle et des générations futures, il ne faut pas la réduire. Et je pense qu'il faut également identifier le moyen de rétablir la solidarité entre les générations, contrairement à ce que nous disent les lucides, qui prétendent parler en leur nom, mais qui, en fait, tout simplement trahissent leurs intérêts. Alors, je vous remercie.
Oui, moi, ma première question, en fait, j'ai pas de formation en économie, donc je sais pas, je doute quand même de la pertinence de ma question, mais je vous la pose. Les quelques cours d'économie que j'ai eus, y a une idée qui est souvent ressortie, c'est que le système économique dans lequel on vit repose beaucoup sur la confiance. Et puis, pour illustrer le fait que la confiance était quelque chose de très important, ben, souvent, on utilisait l'image. On nous disait que, OK, je crois que c'était du 1 pour 5, mais pour chacun des dollars en circulation au Canada, il y avait 5 dollars virtuels ou quelque chose comme ça à cause de la circulation. Et puis ça voulait dire que si, par exemple, tous les gens au Québec se levaient aujourd'hui puis se pointaient à la banque pour une raison de crise économique ou de guerre ou peu importe, eh bien, les banques n'arriveraient pas à fournir l'argent. Et donc, dans cette idée-là, ce que je me demande, c'est que... est-ce qu'il y a un lien qui peut être fait entre l'idée de confiance puis la lutte à la dette? Est-ce que le fait de lutter contre l'accroissement de la dette ne donne pas aux gens l'impression d'avoir confiance en ayant une emprise sur cette dette-là?
En la remboursant, d'avoir une emprise dessus?
Oui.
Ça, je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question-là parce que c'est probablement la... On pourrait faire un sondage là-dessus, puis voir un peu comment est-ce que les gens répondent. Mais je serais très étonné que les gens aient plus confiance en se disant que finalement, on la rembourse, la dette. Je pense que ce qui existe surtout, c'est une grande mystification par rapport à... Je vais prendre un exemple. L'Alberta... Au Canada, c'est la seule province où non seulement il n'y a plus de dette, mais où il y a des surplus. Autrement dit, au lieu d'avoir des engagements envers des créanciers, l'Alberta détient des actifs en surplus. Si l'Alberta a réalisé ce ce résultat-là, c'est parce que, premièrement, sa dette initiale est extrêmement faible, puis deuxièmement, c'est que son taux de croissance est faramineux. On le sait à cause de quoi? C'est qu'elle est assise sur un baril de pétrole. Alors, dans ce cadre-là, on pourrait dire, ben, c'était non seulement très facile pour l'Alberta de réduire sa dette, mais elle a bien fait de l'éliminer tout de suite parce que ça ne lui coûte plus d'intérêt. Mais moi, je dis au contraire. Même dans le cas de l'Alberta, si l'Alberta n'avait pas remboursé un seul sou de sa dette, elle en serait néanmoins aujourd'hui, à cause de la croissance faramineuse de son produit intérieur brut, avec un rapport de la dette au PIB, même si la dette n'avait pas été modifiée d'un iota, le rapport de la dette au PIB en Alberta serait réduit aujourd'hui à sa plus simple expression. Et puis le rapport, comme on a vu tout à l'heure, du service de la dette au revenu budgétaire, ce serait quelque chose comme un demi-cent par dollar. Donc, non seulement l'Alberta aurait eu intérêt à le faire parce que un demi-cent dans un dollar, ça ne représente rien, et d'autre part, pour rembourser sa dette, bien, il a fallu qu'elle se prive, effectivement, de 13 milliards de dollars. C'était pas beaucoup à comparer à la dette du Québec, mais il en reste pas moins qu'il a quand même fallu rembourser ça, puis que ça aurait pu être utilisé à autre chose. Et ce n'est pas du tout, disons, sans intérêt, parce que aujourd'hui, aux dernières nouvelles que j'ai entendues à la radio récemment, c'est que l'Alberta se dirigerait vers un surplus budgétaire de 9 milliards de dollars cette année. 9 milliards, c'est presque aussi gros que le surplus budgétaire du gouvernement fédéral. Donc, au gouvernement fédéral, si on faisait l'équivalent, ce serait 54 milliards de dollars. C'est gigantesque. Et par ailleurs, ce qu'on nous dit, c'est que, en ce moment, il y a de terribles problèmes de services publics, en particulier dans les régions de très rapide développement, où ils sont en train, à tour de bras, de mettre sur pied des installations pour extraire les sables bitumineux, puis il n'y a pas de services publics. Alors là, je veux dire, c'est là que le problème se pose. C'est pourquoi ne pas avoir utilisé ces sommes-là au minimum et pourquoi ne pas utiliser celles qui s'en viennent et se retrouver dans une situation où, en même temps, on a l'air d'avoir de constater une énorme abondance puis qui côtoie une carence inexplicable et inacceptable du point de vue des services publics. Alors, je ne sais pas, j'ai de la difficulté à établir le rapport de confiance, disons, à ce niveau-là.
Merci.
Vous avez parlé d'évasion fiscale. Moi, j'ai vu un reportage là-dessus, là, les paradis fiscaux. On parlait des multinationales, puis on parlait des banques aussi. Alors, j'aimerais que vous soyez plus explicite par rapport aux évasions fiscales, combien ça peut représenter. Et j'aimerais aussi que vous nous parliez des subventions qu'on donne aux pétrolières. Moi, j'essaie de comprendre ça, là, puis je ne comprends rien. Comment ça se fait que le fédéral donne des subventions aux pétrolières quand on voit les profits faramineux qu'ils font?
D'abord, pour ce qui est du montant précis de l'évasion fiscale, je ne suis pas capable de vous donner de chiffres. Parce que qui dit évasion dit secret. Et puis, il est extrêmement difficile de suivre à la trace. Il serait possible de le faire. Je suis convaincu qu'il serait possible de le faire. Parce qu'il suffirait que, si par exemple, mettons quelques pays parmi les plus puissants disaient « on va mettre au pas les paradis fiscaux », en deux jours, ils pourraient le faire. Mais ils ne sont pas intéressés à le faire parce qu'ils en bénéficient considérablement. Donc, combien, je ne le sais pas. Je ne suis pas capable de le dire. Il y a des chiffres qui sont avancés. Par exemple, dans le document dont je vous ai parlé, à un moment donné, il parle de 350 millions de dollars par année pour les seuls pays industrialisés. Mais ça, à mon avis, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Mais je ne suis pas capable de le vérifier. Je suis incapable de le dire. Et puis, ce qui indique en même temps, ce qui désigne une urgence et une nécessité, il faudrait que ce taureau soit vraiment pris par les cornes à ce niveau-là. Pour la deuxième question, comment expliquer ça? Ben, je suis du même avis, je ne suis pas capable d'expliquer ça non plus. Comment peut-on alimenter Je dirais, prenons un exemple pour le Québec, parce qu'il n'y a pas de pétrole. Mais prenons, par exemple, au Québec, tout le débat qui a lieu en ce moment sur les tarifs d'électricité. Et puis, les tarifs préférentiels accordés aux entreprises d'aluminium. C'est un débat qui est très compliqué parce que c'est vrai que les monopoles de l'aluminium, ils font des profits gigantesques. Et ce qui amène le Québec, ou ce qui l'a amené jusqu'à maintenant, à dire « on va continuer à leur donner des tarifs préférentiels », c'est que ces compagnies-là, en même temps, sont des experts chanteurs, des maîtres chanteurs. Et puis, du jour au lendemain, ils peuvent dire, ben, on déplace. On a vu dernière négociation pour l'Alcan au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a tout pris pour que l'Alcan décide de maintenir ouverte une usine. Puis ça a pris des concessions salariales, puis etc. Alors, c'est sûr que c'est difficile à expliquer. Puis, en même temps, est-ce que il y en a qui disent « Vendons notre électricité à l'extérieur. Vendons ça sur le marché américain ou le marché ontarien. Et puis, on va faire des revenus d'exportation. » Bien là, ça, c'est tout aussi difficilement soutenable. Parce que, est-ce que le Québec doit se... Admettons qu'il y a une certaine forme de développement régional et de production manufacturière avec la production d'aluminium. Grâce, mettons, aux tarifs préférentiels et malgré le chantage. Le jour où le Québec décide qu'il se tourne vers une autre politique, qui est celle d'une exportation, à ce moment-là, de matières premières, l'électricité non transformée, on exporte l'électricité. Ça veut dire que le Québec fait un pas en arrière pour devenir encore davantage un producteur de produits non transformés, de valeurs non ajoutées, et ce qui le rend aussi tout aussi vulnérable par rapport à l'extérieur. C'est un problème qui est très complexe. Et puis, je suis parmi les premiers avec vous à regretter que ces entreprises-là fassent ce chantage-là. Mais en même temps, le débat a lieu en ce moment. Puis si on va au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, puis qu'on leur demande « qu'est-ce que vous en pensez? » Ils vont dire « subventionner Alcan, au coton, parce que nous autres, c'est la région qui en dépend. » C'est ça le dilemme. Ben, je ne suis pas capable, c'est ça. Je veux dire, j'ai transformé la. Parce que j'ai dit aux subventions pétrolières, bon, il n'y en a pas de pétrolière au Québec. Bon, subvention pétrolière, c'est tout aussi. Je veux dire, c'est le même problème qui se pose. Sauf qu'évidemment, dans le cas de subvention pétrolière, la différence avec l'Alcan, c'est que quand on produit du pétrole, en général, on le produit pour consommation immédiate soit pour exportation. Le gros de la production albertaine, d'ailleurs, c'est destiné à l'exportation. Mais ça demeure une exportation de matières premières. Mais que le gouvernement subventionne ça, ben, c'est problématique. Bien d'accord.
Bonjour. Je vais d'abord faire une petite remarque, disons, en caractère sociologique. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que si on payait la dette, l'impact que ça aurait en termes de conflit de génération, surtout sur la génération des plus jeunes. Moi, je suis retraité. Je pense que vous êtes retraité. On voit qu'il y a un certain nombre de têtes grises dans la salle. Ce discours-là là, de la dette, qu'on l'a vu entre autres avec le dernier budget Audet, pas le dernier, l'avant-dernier, là, était un discours qui était vraiment très culpabilisant à l'endroit des personnes âgées. On ne se fait pas d'illusion, même si je vais prononcer un mot qui est des fois difficile à prononcer, mais dire l'impact en termes de discours culpabilisant amène à penser des fois à politique d'euthanasie. On peut très bien s'imaginer que dans le service de santé, où il y a beaucoup de contraintes financières, quand ils ont finalement à choisir entre un traitement à donner, un traitement qui coûte plusieurs milliers de dollars pour guérir d'un cancer, si on entre un garçon, un jeune homme de 30 ans puis un de 70 ans, on peut très bien s'imaginer ce qui se passe là-bas. Hein? Et on a su aussi dernièrement qu'il y avait des taux de suicide qui augmentaient chez les personnes âgées. Et ça, c'est juste une question de détresse psychologique puis tout ça, où il y a aussi ce discours culpabilisant-là qui amène les gens. La grande peur, finalement, des gens, c'est pas juste de vieillir, c'est à un moment donné de perdre son autonomie puis de devenir dépendant. Et finalement, d'être cette lourde charge pour la société absolument épouvantable. Et c'est ça qui, il y a fort probablement, ces taux-là d'ailleurs, ça probablement un petit reflet de la réalité, parce qu'il y a fort probablement beaucoup de gens qui se suicident, on les trouve âgés, là, des personnes âgées, on les trouve morts le lendemain matin, ils sont morts dans leur sommeil, ils ont peut-être une dose de médicaments qu'ils ont pris, puis ils disent ça passe pas dans les statistiques. Alors, j'ai mon petit commentaire sociologique, c'était ça. L'autre chose aussi, que votre discours aussi, quand vous dites que finalement, il ne faudra pas rembourser la dette, alors, on fait toujours la comparaison entre la dette de l'État et la dette d'un individu, puis vous avez démystifié beaucoup de choses, c'est intéressant à entendre d'ailleurs, qu'on compare vraiment les pommes avec les pommes, mais dire qu'on ne doit jamais, tu sais, c'est difficile à vendre, on ne doit jamais rembourser la dette. Est-ce que ce ne serait pas plus... je ne dirais pas vendeur, mais acceptable de dire, pour le moment, compte tenu de la situation, compte tenu de toutes ces réalités-là, nous ne pouvons pas nous permettre, pour le moment, de rembourser la dette. Puis c'est difficile d'imaginer, pour un individu, que j'ai une dette, que ça peut être une dette même immobilière, j'ai une hypothèque, mais jamais j'en ai la rembourser. C'est comme plus difficile à vendre. Il faudrait peut-être mieux de nuancer un petit peu cette affirmation-là, je ne trouve pas.
Je pense que... la question donne l'occasion de répondre à une question que je n'ai pas soulevée. Et donc, j'apprécie particulièrement cette question-là, c'est que quand je dis qu'il ne faut pas rembourser la dette, il faut faire attention. Le terme « rembourser » peut être compris sous deux angles différents. Et en fait, le gouvernement du Québec, là, au sens strict du terme, chaque année, il rembourse de 5 à 6 milliards de dollars de dette. Mais il emprunte immédiatement le même montant et un peu plus. De sorte que il fait face aux échéances. Parce que la dette qui a été contractée, comme je disais tout à l'heure, il y a 20 ans, et qui vient à échéance cette année, il faut la rembourser. Sinon, quand le gouvernement va vouloir emprunter la seconde suivante, on sait ce qui va se faire répondre. Donc, le gouvernement du Québec est un excellent payeur. Il rembourse à échéance et il paye ses intérêts à échéance, ce qui n'empêche pas sa dette de continuer à augmenter. Maintenant, le parallèle avec... Mais sa dette continue à augmenter, mais pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, son rapport au produit intérieur brut continue à diminuer. S'il commençait à emprunter à un rythme plus rapide que l'augmentation du produit intérieur brut, ce qui se produit d'ailleurs à chaque récession. Lorsque, à un moment donné, il y a une année ou deux de récession, le taux de croissance du produit intérieur brut chute, bien, pendant ce temps-là, si la dette continue à augmenter au même rythme qu'avant, c'est sûr que le rapport de la dette au PIB pendant cette période-là augmente. Bon, moi, je parle sur une longue période, et sur une longue période, c'est rare qu'on a 10 ans de récession de suite. Ça s'est déjà vu, la dépression des années 30, ça a été une longue période. Mais habituellement, une récession, ça s'étale sur 2 ans peut-être, puis après ça, ça repart en grand. Ce qui veut dire que, tout compte fait, sur une période de 10 ans, les 2 ans, par exemple, de récession vont être largement équilibrés par les 8 autres années de croissance et, au total, le rapport de la dette au PIB pendant cette période-là aura diminué. Maintenant, ceci étant dit, si on compare ça avec la situation d'un individu, il y a plus de ressemblances qu'on pense. On sait que, de plus en plus, la durée des hypothèques augmente. On est rendu que des hypothèques de 35, 40, 50 ans, ça existe, ça. 35, 40, 50 ans pour un individu, par rapport à 100 limites pour un État, il n'y a pas une grande différence. De toute façon, l'individu passe ça à ses héritiers. Il s'achète une maison qui paye considérablement plus cher qu'avant, il prend une hypothèque qui est considérablement plus élevée qu'avant, il la prend sur le très long terme de sorte qu'il ne paye rien que des intérêts, ou presque, Et puis quand il meurt, bien, il lègue tout ça à sa progéniture. La progéniture reçoit en même temps les intérêts, l'actif et le passif. Donc, la différence n'est pas si grande. Puis en même temps, il faut dire une chose, c'est que l'individu, pendant ces 30, 40 ou 50 ans-là, son salaire annuel, qui est, mettons, qui était il y a 40, aujourd'hui, qui peut être, mettons, 30, 40 000, que va-t-il être dans 30, 40, 50 ans? Il va avoir été multiplié par 10. Puis pendant ce temps-là, la dette, elle, sa valeur nominale n'aura pas augmenté. Donc, la valeur réelle de la dette va avoir diminué. Et son rapport au revenu va avoir diminué aussi. Donc, il y a un parallèle à faire avec la situation d'une situation personnelle. Ce n'est pas si différent que ça. Et on constate justement que l'endettement, il devient généralisé, puis l'endettement privé, ben, on n'a pas besoin de faire de dessin à personne. On sait que l'endettement privé, il est extrêmement élevé.
Alors, moi, ce serait juste pour une petite précision. Sur le tableau 2, vous tenez compte que la dette augmente de 7 milliards par année.
Que la dette augmente de?
Les intérêts sur la dette sont de 7 milliards par année. C'est bien ça?
Dans le tableau 2?
Oui.
Oui, parce que là, dans le tableau 2, il n'y a pas de... ce sont les intérêts sur la dette sont d'un montant de 7 milliards. Ils n'augmentent pas.
Ouais, 7 milliards par année. 7 milliards par année. Est-ce que vous considérez que le gouvernement rembourse ces intérêts-là?
Bien, ça, c'est, je l'ai expliqué tout à l'heure. Il en paye en argent sonnant 4 milliards. Parce que ces 4 milliards-là, ce sont les 4 milliards qu'il paye sur la dette directe, c'est-à-dire sur les émissions, sur les obligations émises dans le public. Les titres, les bons du trésor, tout ce que vous voudrez, tous les titres émis dans le public. Donc, il paye 4 milliards. Il ne paye pas 7 milliards. Les trois autres milliards, il ne les paye pas. Il les inscrit comme dépenses. Et puis, dans ses opérations non budgétaires, il inscrit un montant égal, mais de signes différents, ce qui veut dire que ça ne génère pas de besoins financiers.
OK. Mais comment... Est-ce que c'est vraiment pertinent de considérer que sur 20 ans, la dette stagnerait à 122 milliards et que le PIB continuerait d'augmenter?
Non, parce que, justement, là, j'ai dit tout à l'heure, je simplifie les choses. J'essaie de montrer ce qui se passerait, mais dans l'autre exemple, du tableau 3, je montre justement qu'elle augmente. Mais là, j'ai voulu séparer dans le tableau 2 pour le comparer avec le tableau 1, c'est-à-dire dans le tableau 1, je fais diminuer la dette. Mais en fait... si je fais diminuer la dette d'un milliard, ça veut dire que je suppose qu'elle arrête d'augmenter. C'est pas réaliste non plus. C'est un exemple simplifié pour essayer de faire ressortir l'aspect que je veux faire ressortir, c'est-à-dire que ça coûte plus cher que ce qu'on économise.
Merci.
Je pourrais en faire un exemple comme ça. J'ai publié récemment un texte pour faire la critique d'une méthode... utilisé par l'économiste Pierre Fortin et le fiscaliste Luc Godbout pour évaluer l'impact du vieillissement de la population sur les finances publiques. Un texte que j'ai intitulé « La futurologie à rebours de Fortin et Godbout ». Et là, ce que je fais, les exemples que je présente sont des calculs plus compliqués, où je fais intervenir un fonds des générations qui s'accumule chaque année. Et puis, je regarde ce qui se passe au niveau de la dette. C'est-à-dire, bon, c'est ouf que je ne vais pas vous présenter ça aujourd'hui pour une première présentation. J'ai essayé de couper là où c'était possible de couper pour faire ressortir l'aspect que je voulais faire ressortir. Mais il ressort tout autant des autres tableaux, mais c'est beaucoup plus compliqué.
Ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est la question du PIB, qui est en croissance. Alors, et qui est en croissance supérieure à ce que ça pourrait considérer, qu'on pourrait considérer pour ce qui est de la décroissance de la dette. Et est-ce que le fait de rembourser, que l'État rembourse à ceux qui ont prêté de l'argent au gouvernement, ça ne contribue pas à les enrichir, ces gens-là, et ça ne contribue pas à augmenter le PIB.
Pas du tout. Les gens qui ont de l'argent puis qui le prêtent au gouvernement, là, supposons que le jour où le gouvernement n'emprunte plus, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là? Ils vont le prêter à d'autres. Le capital financier, il est là pour fructifier en se prêtant. Alors, s'il ne peut plus, en admettant que le gouvernement élimine sa dette complètement, bien là, il va avoir des problèmes. Parce que son problème, son objectif, c'est de fructifier en réalisant des prêts. Il va se trouver d'autres emprunteurs. C'est comme ça que le produit intérieur brut, à la limite, va augmenter, parce que dans le produit intérieur brut sont comptabilisés tous les revenus de tous les biens et services, y compris les intérêts. S'il prête au gouvernement, il reçoit la seule chose qui l'intéresse dans les prêts au gouvernement, c'est que le gouvernement est un excellent client. Qui est en symbiose totale avec les marchés financiers, parce que le gouvernement est toujours endetté et puis il paye tout le temps. Il est solvable. Pas compliqué, il lève des impôts s'il n'y en a plus d'argent. Donc, les marchés financiers adorent ça. Évidemment, le rendement est moins élevé que sur d'autres choses, sauf que dans la composition d'un portefeuille, il est toujours très important pour un investisseur d'avoir toutes sortes de placements. Et quand il y en a un bon magot, dont il est sûr de préserver le rendement, bien, il l'utilise. Puis, entre-temps, bien, il fait toutes sortes d'autres affaires aventuriers, comme investir dans les fonds de couverture ou ces affaires-là, qui fonctionnent à un moment donné jusqu'au moment où il pète en pleine face.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes?
La nationalité des emprunteurs est quand même intéressante. Si ce sont des Québécois, au moins les intérêts, ils vont rentrer au Québec, ils vont rester au Québec. Alors que le dernier budget, au dernier budget de 2006, il y a eu un emprunt qui était fait sur le marché mexicain. À ce moment-là, on va payer des intérêts aux Mexicains, puis là, ça va être intéressant pour soit les sociétés ou les individus mexicains qui auront fait ces prêts-là. Hein. Fait que s'il y avait il y aurait peut-être une possibilité de lancer un appel, est-ce qu'on répatrie? Je pense que c'est 40-60% la répartition des Québécois
Ce qu'on connaît, c'est la répartition en devises.
OK.
Et l'essentiel de la dette québécoise, elle est libellée en dollars canadiens.
OK. Ah.
Presque 90%. Maintenant, ça peut être libellé en dollars canadiens puis avoir été acheté par des Mexicains ou par n'importe qui.
Ça,
c'est impossible de vérifier et le gouvernement ne publie pas de statistiques là-dessus.
Okay.
Mais là, si on s'engage là-dedans, ben on s'engage sur on fait face à un moyen contrat. Parce qu'on peut se demander pourquoi, par exemple, le bas de laine des Québécois, qui est la Caisse des dépôts et placements, investit en l'étranger. Parce que si le bas de laine des Québécois doit servir au développement économique du Québec, il pourrait subir, accepter un rendement légèrement inférieur, mais au moins créer de la richesse ici.
Voilà.
Fait que là, s'il fallait commencer par quelque part, c'est plus là d'abord qu'il faudrait aller voir.
Oui, puis si on était au Mexique, c'est parce que le taux d'intérêt était seulement moins élevé là-bas. Hein.
Ça, ils disent ça au nom de la diversification des sources d'emprunt.
Est-ce que les nationalisations, c'est un enrichissement du PIB?
Si la nationalisation...
Si les nationalisations, quand l'État, par exemple, nationalise un privé, est-ce que c'est un enrichissement du PIB?
Ben, ça dépend. Comment se fait
comme par exemple, quand le Québec a acheté Shawinigan Power, Turn Power, par exemple.
Ça a tellement profité à Shawinigan Power, Water and Power, que c'est de là qu'est née Power Corporation, qui est la plus gigantesque société de portefeuille au Canada aujourd'hui. Alors, ça profite au privé? Oui, monsieur.
Au PIB?
Au PIB? Ben, ça se calcule pas comme ça. C'est pas la nationalisation comme telle. Ça, c'est un changement de propriété, là. C'est les titres qui changent de propriété. Le PIB, là, ça mesure les flux de revenus en biens et services au cours d'une année. La nationalisation, c'est une autre opération. La nationalisation, ça n'a pas besoin d'être une nationalisation. Ça pourrait être n'importe quel changement de propriété. Par exemple, une entreprise privée vend à une autre. ou est victime d'une acquisition hostile. Bon, c'est un changement de propriété. Ça n'a pas d'incidence sur le produit intérieur brut. Ça n'aura une incidence sur le produit intérieur brut que si, par exemple, après que l'acquisition aurait été faite, l'entreprise qui a acquis l'entreprise acquise ferme les portes puis s'en va produire ailleurs. Bien, là, forcément, le produit intérieur brut, il vient de prendre une chute. Mais ce n'est pas l'acquisition comme telle qui fait ça. C'est un changement de propriété, point final. La production se poursuit sous autre propriété.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je vous remercie infiniment, M. Gill. Et quand j'ai vu l'intérêt que les gens portaient à vous écouter, ils tournaient les pages et puis c'était le silence. J'ai trouvé ça extraordinaire. Merci infiniment.
Mais juste avant, est-ce que vous avez compris quelque chose? Merci.
Mm-hmm.